Nous arrivons pour de bon au terme de l'étude biblique animée par le pasteur Minor Andria sur le chapitre 12 de la première lettre aux Corinthiens. La prolongation des échanges sur les dons de l'Esprit nous conduira tout naturellement au chapitre 13, le fameux hymne à l'amour, dont Nathan nous en fera la lecture. Mais auparavant, écoutons la suite du témoignage de Serge.
Moi, j'ai longtemps vécu dans les milieux évangéliques et j'ai laissé beaucoup de plumes parce que justement, dans les milieux évangéliques, je ne parle pas des cas particuliers, mais de la doctrine évangélique, il n'y a pas ce jeu. Donc, c'est blanc ou c'est noir, et puis ça finit par être complètement totalitaire, et par exclure tous ceux qui ne sont pas conformes à la doctrine ou à la théologie. Quoi. Et c'est vraiment brutal. Donc, on peut, avec des textes bibliques, avec des...
On peut leur faire dire n'importe quoi.
On peut créer un système aussi méchant que le nazisme, dans le fond. C'est-à-dire quelque chose qui est complètement déshumanisé, parce que quand tu n'es plus... dans le système évangélique, quand tu n'es plus reconnu comme étant sauvé, tu es un infra-humain, au sens propre du terme. Tu peux crever, ça ne te touche pas parce que, quelque part, tu es passé de l'autre côté de cette frontière entre les saints et les... Et c'est absolument terrible. Et aujourd'hui, à la surface de la Terre, il y a probablement plus de chrétiens dans ce système-là, système évangélique, que de l'autre côté. Voilà. Donc, et pour moi, ça fait partie de la réalité de l'évangile. Enfin, cette masse d'évangéliques aujourd'hui, quand tu vois au Brésil, par exemple, beaucoup de flics brésiliens sont évangéliques. C'est la police la plus violente au monde parce que pour un évangélique qui a une arme, tuer un autre humain qui n'est pas chrétien, parce que sinon il ne volerait pas, c'est pas grave. Parce que de toute façon, il n'est pas sauvé. Donc si je le tue, c'est pas grave. Au contraire. Donc c'est absolument terrible. Cette question des fruits est un risque permanent dans ce durcissement de l'interprétation.
Voilà, je voulais revenir sur ce qu'il vient de dire dès le début maintenant. C'est la vérité qui nous libère.
Donc ne pas savoir des fois.
Absolument.
Accepter de ne pas savoir, c'est peut-être un gage de... on est peut-être un peu plus proche de la vérité quand on dit qu'on ne sait pas.
Oui, alors...
Et là, ce n'est pas les vérités petites, mais c'est
quelle
les
vérité,
grands V. C'est les grands V.
Quelle vérité. Je veux dire, ici, dans la lettre aux Corinthiens, il y a surtout ce débat, que le contexte de cette église de Corinthe était... C'était une église constituée de gens qui se considéraient comme supérieurs aux autres, comme étant des gens qui savaient vraiment manifester les bonnes manifestations de l'esprit, ce qu'ils appelaient les pneumatica ou les charismes, les bons charismes. Alors parmi les plus prisés par les membres de cette église, les charismes les plus prisés étaient le don de parler en langue.
La glossolalie.
La glossolalie, le don de parler en langue.
Alors, ça a épaté la galerie, ça.
Exactement. Et les extases.
Et Spiderman. Paul, il leur dit, attention, il y a un petit problème. Oui. Il dit qu'il y a une hiérarchie dans les dons.
Et il dit, le don le meilleur, c'est l'amour.
La charité. Ah oui, alors ça c'est dans le chapitre 13.
Tu veux lire ça, hein?
Je veux parler toutes les langues des hommes et des anges,
Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je me fais d'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante.
Ça fait beaucoup de bruit, mais après, voilà. Alors, vas-y, continue.
J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, il me manque l'amour. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas. Jalouse pas. Il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'importe pas, il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie de ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais, les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée.
Voilà.
Amen.
Oui, il y a dans les trois premiers versets, là, donc là, le fait de parler en langue, le fait d'avoir une foi qui fait des miracles, qui guérit, qui est exaucée, une foi exaucée, qui fait exaucer les prières, et puis le fait de donner toutes ses richesses, tout son argent aux pauvres, c'est caractéristique de beaucoup d'églises aujourd'hui. Il y a des églises qui se vantent d'être diaconales, d'être au service des autres, de faire plein de choses pour les pauvres, pour les réfugiés, les démunis. Il y a des églises qui se vantent de faire des miracles. Venez chez nous, vous serez guéris, toutes vos prières seront exaucées, vous deviendrez riches, prospères et tout ça, la théologie de la prospérité. Et puis des églises qui se vantent d'avoir des charismes spirituels, enfin des capacités spirituelles à parler en langue, à avoir des connaissances de la vérité, des choses comme ça. En tout cas, l'amour, après le chapitre 12, l'hymne à l'amour, dit que ce qui fait le plus de bien, ce qui constitue, si on veut un critère, un fruit de l'esprit, un critère qui peut nous indiquer que c'est un fruit de l'esprit, c'est la charité. C'est la foi qui agit par l'amour, la foi agissante par l'amour. C'est un critère qui peut être utilisé. Après, c'est toujours quelque chose qui est discutable. L'amour est toujours discutable, c'est-à-dire on ne peut pas dire ça c'est vraiment quelque chose qui vient de l'amour et ça ne vient pas de l'amour. Quelque chose parfois qui paraît tout à fait... détestable peut être vraiment motivé par un amour profond et
qui aime bien châtie bien.
Et à l'inverse, dans un geste qui peut sembler très désintéressé que tout le monde admire, il peut y avoir de la recherche de soi, de la gloriole. Donc, faut aussi s'abstenir de juger. C'est le Seigneur qui nous jugera, mais.
Oui, tout ce qu'on a à faire, c'est d'essayer d'agir par amour, en tout cas pour le bien de tous, pour le bien commun, pour l'utilité, autant qu'on peut, tel que ça nous est inspiré par l'esprit au moment où on agit. Je vais peut-être terminer par là parce qu'il faut qu'on arrête. J'ai découvert en préparant le thème de la semaine de l'unité cette année, 325-2025, 1700 ans, du concile de Nicée. Mmh. Et donc, on a fait une table ronde avec le père Jean-Jacques Rouchy, qui est délégué diocésain à l'œcuménisme, sur ce thème. Et il m'a dit, moi, je ne suis pas très bon dans la réception, mais je m'occupe de l'histoire du concile, et je vous laisse la partie réception, notamment la question de la notion de personne dans nos différentes églises. La question de la personne, la question aussi de la relation. Chez Kant, il fait la distinction entre la religion théorique et la religion pratique. Il dit que la religion théorique, c'est toutes ces vérités qui nous sont imposées par différentes religions. Alors que la religion pratique, c'est la religion qui est accessible à n'importe qui, même les non-croyants. Et par religion pratique, ça peut partir du respect de soi. Il ne parle pas de l'amour de soi, comme dans la Bible on dit « aime ton prochain comme toi-même ». Il parle du respect de soi.
C'est déjà pas mal.
Voilà. La religion pratique part de là. Et parce qu'on arrive à se respecter, eh bien, pour par respect de soi, on respecte l'autre. Et par respect de l'autre et respect de soi, on respecte l'institution, on respecte le vivre ensemble.
C'est la non-instrumentalisation d'autrui. L'autre a le droit d'exister pour lui-même, au même titre que moi, parce que c'est créature.
Oui, c'est le deuxième impératif catégorique de Kant. Qu'on connaît moins, on connaît le premier qui est l'universalité. Qui, si on s'en tient à l'universalité, ça entombe dans le piège. On impose l'universalité, ça devient une vérité absolutisée. Mais si on ajoute le respect de l'humanité, on n'a plus une maîtrise d'un impératif quel qu'il soit. C'est la personne qui devient au-dessus de tout. Le troisième, c'est la réciprocité. C'est-à-dire, quand je me donne à moi-même une règle, il faut que je sois à la fois le juge et celui à qui la règle s'applique.
Le problème, c'est quand même le problème du mal en soi. Et le mal en soi et le mal en moi. L'existence. Et donc, s'il n'y a pas ce préalable de la conscience du mal en soi, toutes ces choses-là risquent d'être perverties. Lorsqu'on évoque cette question, là, on sent une réticence.
C'est chez Kant qu'il y a, bien sûr, le mal radical, c'est-à-dire le penchant vers le mal. Kant va dire que la prédisposition au bien est originaire. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que je me rends compte qu'il y a le penchant. S'il n'y a pas la prédisposition au bien, c'est-à-dire...
Oui, c'est comme ça qu'il explique le mal dans la création.
C'est ça.
Mais en même temps, après, une fois qu'il a dit ça, pour moi, le mal, c'est quelque chose de... Enfin, la lutte... La confrontation au mal est quelque chose de très personnel en même temps.
Oui, il y a chez les auteurs bibliques, on retrouve ce combat spirituel. Ils appellent ça combat spirituel.
Combat spirituel.
Oui, entre le bien et le mal. Mais avec l'espérance que justement la prédisposition au bien est originaire, ou en tout cas le bien va finir par l'emporter de manière eschatologique.
Mais en attendant...
On doit lutter. C'est un combat au quotidien. Merci beaucoup.